Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aux amateurs de Sport Week-end, édition du samedi 17 mars. Quelle victoire de l'Impact de Montréal. Je vous dis, ça sera une émission condensée aujourd'hui parce qu'à 18h30, on s'en va du côté de Toronto. Avant-match pour le duel entre le Canadien et les Leafs. Il y avait tout un duel entre Montréal et Toronto également. Ça se passait au Stade Olympique. Direction au Stade Olympique, parler avec notre collègue Jérémy Filosa qui est avec nous. Salut Jérémy.
Salut.
Quelle victoire de l'Impact, surtout. Que d'excitation en fin de match. Écoute, l'Impact a tenu le coup face au Toronto FC.
Oui, bien, on le savait que ça allait chauffer en fin de match parce que Toronto FC, c'est pas le genre de club à dire « Ah, ben là, on perd puis ça va rester de même. » Non, non, c'est un club qui, dans les 10-15 dernières minutes, ils vont tout essayer pour essayer de marquer un but. Altidore est passé près à plusieurs reprises, dont sur la séquence où Bush fait un arrêt partiel. Le ballon se retrouve sur la ligne des buts et Michael Petrasso, qui sort de nulle part pour dégager ce ballon, sauver l'avance de 1-0 de l'Impact. Et tu as raison de le mentionner. Moi, ce que j'ai aimé aussi, Rémi Garde a utilisé ses trois changements aujourd'hui. Donc, bien fait de sa part. Il l'avait dit en début de semaine qu'il s'en voulait un petit peu. C'était remis en question suite aux décisions prises la semaine dernière à Columbus. Bien, aujourd'hui, ça a porté fruit. Et, tu sais, disons, on va dire la vérité, là. Ça a fini 1-0, mais ça aurait pu être... 2 puis 3, l'Impact a eu plusieurs chances de marquer. Piatti sûrement doit s'en vouloir un peu parce qu'il y a eu plusieurs bonnes chances. Mais l'important, là, c'est les 3 points. Là. C'est ça qui compte.
Oui, définitivement. Je pense qu'on peut commencer à parler de duo dynamique entre Vargas et Piatti parce que les deux semblent vraiment trouver une certaine forme de symbiose pour faire en sorte de créer une certaine une menace offensive.
Oui, bien, Vargas, normalement, joue soit sur l'aile droite ou... en position de 10, donc au milieu de terrain, au centre. Aujourd'hui, on l'a essayé comme attaquant. Bon, Mancosu, clairement, il y a un petit pépin. Il ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Il a raté quelques entraînements en début de semaine. Oduro, écoute, on le sait, là, c'est pas le favori de l'entraîneur. C'est pas lui qu'on veut placer là. Donc, il n'était pas disponible. Ben, en tout cas, il n'était pas dans les options de Rémi Garde. Anthony Jackson-Hamel revient de blessure. Il n'était pas dans une position pour jouer comme attaquant en début de match. Donc, il a décidé d'y aller avec Jason Vargas. Puis je vais te dire, ça a été le meilleur match de Vargas à date depuis le début de la saison. C'était son deuxième départ. Il a été dangereux. Marque un but, son premier de la saison. Puis quand tu regardes le schéma des marqueurs de l'Impact, tu as 4 gars qui ont marqué jusqu'à maintenant. Mancosu, Piatti, Raheem Edwards et Jason Vargas. Donc, l'année passée, on disait, Tabarouette, si Piatti ne marque pas, pas personne qui est capable de scorer. Bien, justement, là, on a 4 joueurs différents qui ont... un but chez l'Impact.
Jérémy, souviens-toi, au courant des dernières années, on a souvent parlé de la tempête en défensive du côté de l'Impact. Il y avait un mouvement de panique qui s'installait. Là, on était en contrôle. Et Rod Fanny fait une différence, honnêtement. Il amène beaucoup de stabilité en défensive.
Ben, moi, j'ai trouvé un gars très calme. Savait c'était quoi sa job. Écoute, on parle quand même d'un gars ici, Rod Fanny, qui n'avait pas joué depuis près d'un an. Son équipe en France, il avait mal à partir avec l'entraîneur. Il l'avait laissé à l'extérieur de l'alignement depuis le début de la saison. Et donc, on savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, Rémi Garde, aujourd'hui, il l'a placé en plein centre de la défensive. On a joué un genre de 3-5-2. Et sans trop vraiment le remarquer, il a fait un solide travail. Puis, tu sais, il y a eu quelques duels avec Giovinco dans la surface de réparation. Puis là, on s'entend, c'est la grandeur et la force contre le talent. Puis il est sorti de là gagnant de ces duels-là. Donc, je veux dire, Giovinco, il a 6 matchs dans le corps depuis le début de la saison. Il est en pleine forme. Et Fanny, lui, c'est son premier match. Et malgré ça, il n'a pas du tout semblé hors contrôle dans ce match-là. Donc, chapeau à Rod Fanny qui a joué un gros match aujourd'hui ici. Au Stade olympique.
Mais tu dis face à Giovinco, mais que dire Altidore également? Parce que les duels physiques, ça prend du bétail pour jouer contre Altidore. Et Rod Fanny est capable de faire ce travail-là.
Oui, il est capable de le faire. Sauf qu'on s'entend, Altidore, quand il fonce dans le tas, malheureusement, les autres, ils revolent souvent. Même Rod Fanny, ça va être difficile pour lui d'arrêter un gars qui est quand même plus jeune que lui en Josie Altidore, il faut le mentionner. Très fort physiquement. Mais aujourd'hui, on va dire la vérité, les 60-65 premières minutes de jeu, on a à peine vu Giovinco et Altidore dans ce match-là. On a beaucoup plus entendu les noms de Vargas et de Piatti dans les surfaces adverses que des attaquants du Toronto FC. Donc ça, c'est bon signe. Je vous le répète, le Toronto FC a la tête à la Ligue des champions. Ils sont tout près du premier titre de l'histoire de la MLS dans cette compétition-là. Donc, dur pour eux d'avoir la tête à ce match de rivalité contre l'Impact de Montréal. Et l'Impact a su en profiter. J'aurais simplement voulu les voir concrétiser un peu plus souvent. Mais en bout de compte, là, tu sors d'ici avec la victoire, puis tu mets tes trois points au compteur, puis on va de l'avant là, à partir d'ici.
Évidemment, hier, Cadio Marcuzzi qui était faire un tour du côté du vestiaire pour aller prendre les réactions, évidemment, entre autres de Rémi Garde et de l'ensemble des joueurs qui sont là. Il sera avec nous un peu plus tard pour nous donner ses échos de vestiaire. Jérémy, je vais faire un peu de chialage officiel.
Okay.
Qu'est-ce qui est arrivé avec l'officiel pour pas donner un penalty sur cette séquence de Piatti dans la surface de réparation de Toronto? Ça semblait un penalty clair, net et précis.
Je vais être bien franc avec toi. Les écrans témoins ici dans notre studio sont très loin et j'ai vraiment pas pu voir la séquence clairement. Normalement, quand il y a une séquence où un penalty est clair et c'est raté par l'arbitre, on va à la reprise vidéo. Ceci dit, la faute, elle était vraiment tout près de la ligne, de la zone de réparation de la boîte. Donc, si l'officiel du juge vidéo a jugé que la faute a eu lieu à l'extérieur de la surface, ce n'est pas une séquence que l'on a droit d'utiliser la reprise.
Non, il est à l'intérieur de la surface. Il est à l'intérieur de la surface.
Oui, il est à l'intérieur de la surface.
Définitivement. C'était la pénalité claire, nette et précise, là, selon moi.
Ouais.
Mais écoute, j'avais les reprises vidéo qui nous prouvaient. Je voyais le reportage sur les ondes de TVA Sport avec notre collègue Vincent Destouches. Et on voyait vraiment qu'il y avait pénalité là-dessus. Ça n'a pas été appelé, malheureusement. Et je vais te dire une chose. Rémi Garde était dans tous ses états.
Ouais.
On demandait absolument d'avoir la reprise vidéo. Ben, malheureusement, l'officiel n'a pas accordé ce privilège.
Moi, il y a une chose que j'aime pas depuis l'arrivée de la reprise. Je peux comprendre qu'on veut pas nuire au match, puis tout ça, on veut pas aller à la reprise 12 fois par match, mais dans une séquence comme ça, je veux dire, c'est la seule réelle séquence du match où ça vaut la peine d'aller voir, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas?
Exact.
C'est ça que je trouve un peu décevant, et le règlement le stipule clairement, hein? L'arbitre sur le terrain, c'est lui qui décide en dernier, donc même si le juge, l'officiel vidéo, lui parle dans ses oreilles et lui dit « Hey, je viens de voir quelque chose, il faudrait aller revoir. » Si l'arbitre sur le terrain dit « Non, j'ai pas besoin de toi, mon chum, ma décision est prise, on y va pas. » C'est de même que ça fonctionne dans la MLS.
C'est dommage parce que c'est une belle séquence dans le cas de Piatti. Ouais. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Samuel Piette qui a contrôlé le jeu. Ce gars-là, vraiment, écoute, je veux t'entendre là-dessus, mais vraiment a été dominant dans ce match-là.
Écoute, il a connu un premier match difficile il y a deux semaines. Plusieurs revirements, surtout en début de match. Il s'était replacé en deuxième demi. La semaine dernière, c'est lui qui crée le revirement en territoire adverse pour remettre le ballon à Piatti, qui marque le but. Donc, une séquence importante là pour Samuel Piette. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est lui qui crée le revirement sur le but de Vargas. On est en plein centre du terrain, sur la ligne centrale. Il arrache le ballon dans les pieds de Bradley, remet à Taider à Piatti, Piatti à Vargas, et se retrouve dans le fond du filet. Donc, le revirement créé par Piette porte fruit. Mais c'est ça que Samuel Piette fait au centre du terrain. C'est un petit bulldog, il est tout petit, mais il a des grosses épaules, il lâche pas, puis il travaille comme un chien. Puis il y a eu d'autres séquences dans le match d'aujourd'hui où il est allé chercher des revirements et l'Impact aurait dû mieux faire sur les contre-attaques et ça s'est pas concrétisé. Mais lui, le travail, il l'a fait. Il y a eu quelques séquences où il a remis le ballon à des adversaires, mais en tout et partout, j'ai trouvé que ça a été quand même un match solide de Samuel Piette. Et puis, c'est le type de joueur que les entraîneurs adorent. Parce que c'est un gars qui lâche jamais. Jamais. Et je suis certain que Rémi Garde apprécie son travail. Et on savait qu'est-ce qu'on allait chercher en Samuel Piette quand on a fait son acquisition l'année dernière. Je me souviens de Mauro Biello et il avait les yeux grands ouverts quand on lui a annoncé que c'était fait avec Samuel Piette. Il le connaissait bien, voulait l'avoir dans son équipe. Puis c'est un gars que l'Impact va profiter là, de sa jeunesse. Et le gars, il a encore du temps pour s'améliorer. Là. C'est ça le pire dans cette histoire-là. Là.
Jérémy, mine de rien, c'est une deuxième défaite cette saison pour le Toronto FC.
Oui, t'as raison. Deux matchs, deux défaites. Mais comme j'ai dit tantôt, ils ont tellement la tête à la Ligue des champions. Je me souviens, il y a trois ans, quand l'Impact avait débuté l'année, Frank Kloppas était l'entraîneur-chef et puis l'Impact était plongé dans cette Ligue des champions et on avait de la misère à mettre la pédale au fond dans les matchs MLS parce que c'est comme si on se disait « Hey, il nous reste toute l'année pour se reprendre dans cette compétition-là. » Puis, c'est psychologique, c'est mental. C'est comme t'es au travail, puis là, t'as un projet super important sur lequel tu travailles très, très fort. Puis là, ben, tu te retrouves avec un sous-petit projet, mais sur lequel tu vas mettre moins d'efforts. C'est très difficile d'avoir la tête à deux compétitions. Ceci dit, Greg Vanney, du côté du Toronto FC, il a mis tous ses meilleurs, là. Les deux gars qui étaient pas là, c'est parce que c'était des gars qui étaient pas à 100%. Donc, ils voulaient gagner ce match-là. Et maintenant, on regarde vers l'avant, puis on voit que le Toronto FC a d'autres matchs en Ligue des Champions au début du mois d'avril, notamment contre Club America. Et ça va peut-être faire en sorte qu'au mois de juillet, quand le championnat canadien va arriver, puis on va devoir encore une fois jouer sur deux fronts, peut-être que le Toronto FC aura du rattrapage à faire en MLS et choisira d'y aller avec ses meilleurs dans ses matchs MLS et non ses matchs de championnat canadien, ce qui pourrait ouvrir la porte à des équipes comme l'Impact et comme Vancouver qui attend depuis des années de se retrouver dans cette compétition. Moi, je suis jaloux du Toronto FC présentement. Je les regarde aller en Ligue des Champions, puis c'est ça qui arrive, c'est que faut tellement que tu en profites quand ton club est en Ligue des Champions, parce que tu sais pas quand est-ce que ça va revenir. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans avant de retourner en Ligue des Champions. Donc, faut savourer ces moments-là. Puis présentement, ben c'est le Toronto FC qui les savoure.
Jérémy, si tu veux bien, on va faire une courte pause. Mm-hmm. Et au retour, on va se parler de nouveaux venus chez l'Impact. Oui. On attend toujours la confirmation officielle, mais on va avoir du support du côté de l'Impact de Montréal, en vous rappelant que ces derniers ont remporté leur première victoire cette saison, victoire de 1-0 face au Toronto FC. On fait une courte pause. Écoutez, les amateurs de sport week-end sur l'ensemble du réseau Cogeco. 17h20, vous sortez du stade olympique suite à cette victoire de l'Impact 1-0 face au Toronto FC. On va prendre vos appels dans quelques instants. Si vous voulez déjà participer à la conversation via texto, vous faites le 98985. Ça va nous faire plaisir de vous lire vos commentaires. On poursuit la conversation en attente des échos de vestiaire avec Jérémy Filosa qui est au stade olympique. Jérémy, il y a deux joueurs qu'on a parlé depuis longtemps. Mm-hmm. Rudy Camacho et Alejandro Silva. Mm-hmm. Il semblerait que c'est plus que concret là, ce qui se passe avec eux.
Ouais, ben écoutez, il faut comprendre que via les médias en Argentine, mais aussi en Belgique. On a pu suivre cette histoire-là. Les joueurs ont déjà quitté leur organisation, ont déjà vidé leur vestiaire, ont déjà quitté. Rudy Camacho a partagé sur son compte Instagram une photo de lui dans l'avion, tu sais, avec la genre de petite carte là sur son écran où tu vois, tu sais, clairement que il est sur le point d'atterrir à Montréal. Et ça, c'était hier. Donc, il est arrivé à Montréal hier. C'est sûr qu'il faut que les joueurs signent leur contrat. Mais on s'entend, les grandes lignes des contrats sont déjà entendues. C'est-à-dire que si le joueur quitte, c'est parce que l'agent a déjà la certitude de c'est quoi le contrat qui s'en vient. On parle de 4 ans pour Rudy Camacho, 3 ans pour Alejandro Silva. On parle de deux joueurs de qualité ici qui vont se joindre à l'Impact de Montréal. Puis j'avais parlé à Adam Braz en début de semaine qui m'avait dit, garde, on vise le match pour Seattle, c'est-à-dire pour les avoir en uniforme. Est-ce qu'ils seront partants les deux? Je ne sais pas. Mais les gars devraient être là, disponibles pour Rémi Garde à Seattle dans deux semaines. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis je suis vraiment content de voir qu'on n'a pas attendu au mois de juillet pour ajouter d'autres éléments. Parce qu'on a eu peur là, à un certain moment donné qu'on se dise, bon, on va s'asseoir là-dessus puis on va attendre au mois de juillet. Non. On ajoute un défenseur central d'expérience, pas un gars de 35 ans, un gars jeune qui peut jouer ici pendant longtemps. Alejandro Silva, c'est un ailier droit qui va prendre l'autre flanc de l'autre côté de d'Ignacio Piatti qui a marqué 24 buts en un peu plus de 200 matchs en Argentine et en Uruguay. Donc, des joueurs de qualité. Et puis, tu sais, je peux maintenant dire aujourd'hui que, sans dire que c'est un alignement parfait, parce que dans mon optique, à moi, ça prendrait au moins un autre attaquant de qualité. Mais t'as maintenant les éléments en place pour aller à la guerre puis espérer te battre pour une place en série.
Et Jérémy, j'ai l'impression que, contrairement, souviens-toi cette séquence où Didier Drogba est arrivé puis c'était Didier le sauveur et là, on a connu du succès. J'ai l'impression que c'est un club qui est plus homogène avec cette façon-là et qui ne se fie pas uniquement sur un seul joueur.
Ben, c'est ça. Là, t'as une équipe. T'as véritablement une équipe. Ta seule star, ta vraie star, c'est Ignacio Piatti. Mais quand t'as des gars comme Taider à ses côtés, quand tu as des gars comme Alejandro Silva qui va s'ajouter à l'équipe, ben tu as raison de le mentionner. Tu as une équipe. Je l'ai mentionné tout à l'heure, tu as 4 buts depuis le début de l'année, c'est 4 marqueurs différents. Donc ça, c'est excellent parce que l'année passée, on va le dire, là, on se mettait à 2 puis on se mettait à 3 pour couvrir Piatti, puis on savait qu'on allait gagner le match. Donc il fallait essayer de contrer cela.
Jérémy, 26 005 personnes se sont présentées au Stade olympique, dont 1 000 de Toronto aussi, il faut le mentionner. Mais quand même, même une bonne foule, une foule respectable pour le match d'ouverture. Je pense qu'on s'attendait peut-être à plus. On aurait aimé aller dans le 28. Hein.
Ben, écoute, il y a quelques aspects. Premièrement, les prix des billets étaient plus élevés pour ce match-ci spécifiquement. On a essayé de faire un coup. Tu sais, l'Impact, là, c'est pas une équipe qui fait énormément d'argent. On a augmenté les prix des billets pour ce match-là parce qu'on s'est dit qu'il y avait bien du monde qui voulait venir le voir. C'est le Toronto FC quand même. Ceci dit, moi je l'ai dit, cet hiver, l'Impact a pris un pari très audacieux. Parce que l'année passée, dans une saison difficile, tu as eu une moyenne de plus de 20 000 spectateurs par match. Pourquoi? Parce que les gens étaient attachés à Bernier, à Camara, à Simon, puis à Piatti, à l'entraîneur-chef Mauro Biello. Là, tu as fait table rase et la réalité, c'est qu'il y a bien du monde qui ne connaissent aucun joueur sur le terrain. Donc, tu n'as pas le sentiment d'attache. Donc, ça prend quoi? Ça prend des victoires. Il faut que tu gagnes pour que le gars, dans son salon, dise « ça vaut la peine d'y aller » et on a eu 26 000 ici aujourd'hui en espérant et en se croisant les doigts que ça se passe bien sur la route dans les prochaines semaines pour que lors du prochain match à domicile au Stade Saputo dans un mois, eh bien qu'on aura une salle comble.
On commence à avoir des réactions sur le texto, la messagerie, ouais. 98985. On sort du stade, une première victoire en plus contre Toronto, satisfait à souhait. C'est Katia qui nous envoie ce message. N'hésitez pas, ça fonctionne. Texto 98985 si vous voulez réagir immédiatement. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, je vais vous donner les numéros de téléphone pour nous rejoindre immédiatement si vous sortez du stade olympique suite à cette victoire de l'Impact 1-0 face au Toronto FC. Appelez-nous 514-790-9850. Parlez-nous de votre expérience de ce match. Comment vous trouvez l'Impact? Partout en province, c'est le 1-866-790-9850. Jérémy, on a honoré deux gars importants chez l'Impact, Nevio oui. Pizzolitto et Gabriel Gervais, qui seront sur le mur d'honneur de l'Impact.
Oui, exactement. Puis il y a des standards assez spécifiques hein, pour le mur de la renommée. Premièrement, il faut avoir joué son premier match avec l'Impact il y a de cela au moins 15 ans. Il faut être à la retraite depuis 5 ans. Il faut avoir disputé au moins 100 matchs et il faut avoir gagné des honneurs, que ce soit des honneurs personnels, individuels ou des honneurs d'équipe. Il faut avoir gagné quelque chose. Et ces deux gars-là, ça a été des piliers de la défensive de l'Impact de Montréal, autant en A-League qu'en USL, qu'en NASL. C'est des gars qui ont gagné des titres de défenseur de l'année. Comme disait Joey Saputo en point de presse, c'est des gars que tu savais que si le club prenait l'avance 1-0, il y avait des bonnes chances que l'Impact allait gagner ces matchs-là. C'est des Québécois, c'est des gars d'ici, c'est des gars qui ont été fiers de porter l'uniforme de l'Impact de Montréal. Puis je pense qu'à chaque année comme ça, on va ajouter des noms. Ce qui est plate là-dedans pour certains, c'est que, étant donné les standards, les critères qu'on vient de mentionner, bien, des gars comme Divayo et Drogba ne deviennent pas admissibles, malheureusement. Mais il y aura sûrement moyen de les honorer ailleurs dans le stade, peut-être mettre des affiches ou quoi que ce soit pour leur rendre honneur pour ce qu'ils ont fait pour l'Impact. Mais on parle ici vraiment des gars qui ont passé plusieurs années et qui ont bûché, qui ont trimé pour faire avancer ce club-là.
D'autres réactions sur la messagerie texte au 98985. On me dit très beau match. Rod Fanny, solide. Oui. Vargas était en jambe. On dit bravo, défense convaincante chez l'Impact aujourd'hui. Bon début de Rod Fanny. Et on dit go Samuel Piette. Je pense qu'on a vraiment saisi chez les partisans qui a bien joué et qui a amené beaucoup à l'Impact lors de ce match.
Oui, bien écoute, t'as raison de le mentionner. Tu sors pas d'une victoire contre le Toronto FC sans avoir joué un bon match en équipe. Tout le monde a quand même bien performé. Il y a peut-être des gars qui ont été un petit peu plus dans l'ombre, qu'on a un peu moins vu, qui sont moins mis en évidence. Mais pour le reste, en général, ça s'est très, très bien passé. Puis moi, je craignais un peu le début du match parce que j'ai vu la formation. Tu sais, je me suis dit, Petrasso n'a pas joué une seule minute en attaque de la saison. Qu'est-ce qu'il va faire à cette position-là? Je me suis dit, est-ce que Rod Fanny peut tenir le coup en défensive centrale contre Altidor? Le gars n'a pas joué une minute depuis à peu près un an. Donc, j'avais beaucoup de questions avec Vargas qui ne jouait pas à sa position naturelle non plus. Finalement, ils nous ont drôlement impressionnés dans un schéma 3-5-2 que l'Impact n'a pas l'habitude de jouer normalement. Là.
Autre réaction, Altidor ne va pas aimer Rod Fanny. C'est ce qu'on dit sur la messagerie texte. Écoutez, les circuits sont pleins. Jérémy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte pause, mais juste avant, voici comment s'est déroulée cette victoire de l'Impact 1-0 face au Toronto FC.
On avance!
Piatti dans la zone de réparation. Une passe vers Vargas, malheureusement.
On attend l'Impact de Montréal.
Lance le ballon dans la zone de réparation. Touché de la tête par Piatti. Il y aura une opportunité de tirer. Oh, mais c'est bien capté par le gardien. Revirement dans les pieds de Samuel Piette. C'est pour Piatti dans la zone de réparation. Il ne tire pas. Vargas, on est près de la zone de réparation. Voici le tir. Bel arrêt de Evan Bush qui platine contre quatre joueurs. Il revient vers l'axe central, vers la zone de réparation. Il centre! Ah, Vargas n'a pas réussi à tirer. Voici Piatti vers Vargas. Le tir! Et le but! Montréal! 1-0 les Pats.
On veut la victoire avec le bleu et blanc noir. Toujours fidèle sur le pitch. Dites, allez, allez, let's go! Allez, 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 go!
C'est vers Piatti. Attention, montée à 2 contre 2. Piatti est là. Tyder aussi. Un défenseur devant lui, c'est Zavalette. On va accrocher Piatti, il a toujours le ballon. Voici son tir, c'est bloqué par le défenseur au passage. Vargas touche le ballon au bout du pied. Piatti est là, le tir c'est bloqué par le défenseur. Oh, il a failli y avoir faute dans la zone de réparation, on laisse jouer. Attention, Saphir Tyder, lui il soutire le ballon. On est dans la zone de réparation, voici son tir. Bien arrêté par Bono. Tyder, près de la zone de réparation pour Piatti à Tyder, le tir!
Oh, c'est rare,
la cible de très peu! Revirement de situation, bien fait par Kroliki. Il pousse vers l'avant. Piatti, monté à 3 contre 2. Vargas est là aussi, devant la demi-lune, le tir! Directement dans les mains d'Alex Bono, vers l'axe central, devant la demi-lune. Petit lob vers Altidore, de la poitrine, il touche le ballon!
Oh, wow.
Et Altidore est passé à un cheveu de faire 1 à 1. Voici Piatti. Oh, bon jeu de pied de Piatti pour éliminer Bradley. Il attaque le territoire adverse, une belle passe par Vargas. Le tir! Et lui, mais il y avait en jeu. Voici la montée de Louis Bélanguyen. Bélanguyen, près de la zone de réparation, tente de déjouer le défenseur, n'y arrivera pas malheureusement. Altidore, il est seul, le tir! Bel arrêt d'Evan Bush!
Oh, wow.
Et c'est sauvé sur la ligne des buts par Michael Picasso!
Wow!
L'Impact de Montréal remporte sa première victoire de la saison. 1-0 face au Toronto FC sur le premier but de la saison de Jason Vargas.